VOA Afrique, les infos à Washington.
14h à Washington, Eric Manelakiza, ravi de vous retrouver. Des hommes armés ont attaqué un poste de police dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, où opèrent de nombreux groupes djihadistes. C'est la première fois qu'une attaque vise les forces de l'ordre béninoises dans cette zone frontalière où deux touristes français avaient été enlevés et leur guide assassiné dans le parc de la Pendjari en mai 2019. Jusqu'à cet enlèvement, le Bénin faisait figure de havre de paix en Afrique de l'Ouest, où prolifèrent des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Les assaillants, au nombre d'une dizaine, sont arrivés à moto avant de tirer en criant « Allah Akbar », Dieu est le plus grand, en arabe, sur les policiers du poste de Kérémou, près de la ville de Banikoara, dans la nuit de samedi à dimanche. Et trois gendarmes maliens ont été tués, trois personnes blessées lors de l'attaque dimanche d'un poste militaire dans le centre du pays. Un responsable militaire qui a requis l'anonymat a précisé que trois personnes avaient été aussi blessées et que les assaillants s'étaient emparés de matériel militaire, dont deux véhicules. Les Camerounais élisent dimanche leurs députés et conseillers municipaux, des scrutins qui ont commencé dans le calme mais ne déplacent pas des foules. Le parti de l'inamovible président Paul Biya devrait l'emporter confortablement dans un pays en proie à de violents conflits séparatistes dans l'ouest anglophone et contre les djihadistes dans l'extrême nord. L'enjeu des résultats résidera donc essentiellement dans le niveau de participation, une partie risquant de dissuader les électeurs d'aller aux urnes dans l'ouest et le nord. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Addis Abeba. Sur le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent, évoquant le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises pré- et post-électorales, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a souligné que si l'Union africaine a récemment permis de faire avancer la paix en Centrafrique et au Soudan, de nombreux conflits persistent, comme en Libye et au Soudan du Sud, tandis que d'autres sont nés notamment au Mozambique et au Cameroun. Appelant à assortir l'action militaire au combat contre les causes profondes des conflits comme la pauvreté ou l'exclusion, M. Faki s'est fait l'écho de la volonté de l'Union africaine d'occuper un rôle de plus important dans la résolution des conflits du continent et de cesser de laisser la main aux puissances et organisations extérieures. L'Union africaine a aussi rejeté dimanche le projet du président américain Donald Trump pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien, qualifié de énième violation des multiples résolutions des Nations Unies. Le nouveau président de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a comparé le plan américain au régime d'apartheid. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Rabat contre le plan du président américain Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien et ont appelé à boycotter les produits américains. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale au cri de « Vive la Palestine ». Des milliers de Kenyans faisaient la queue dimanche pour la seconde journée consécutive afin de se recueillir devant la dépouille de l'ancien président Daniel Arap Moi. Et le chef d'État kenyan s'est resté le plus longtemps en fonction, décédé mardi à l'âge de 95 ans. Monsieur Moi a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 78 et 2002. Après avoir succédé au père de l'indépendance Jomo Kenyatta, lui-même père de l'actuel président Uhuru Kenyatta, à la mort de celui-ci en 1978. Sa dépouille est exposée depuis samedi et jusqu'à lundi au Parlement. Samedi, quelques 23 000 personnes lui ont rendu hommage, selon une source officielle qui a requis l'anonymat. Ses obsèques nationales avec les honneurs civils et militaires ont lieu mardi au stade national de Nyayo à Nairobi. Il sera ensuite enterré mercredi à Kabarak, à environ 220 km au nord-ouest de Nairobi. En Algérie, Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens patrons du renseignement et une chef de parti sont rejugés en appel dimanche. Et deux militaires américains ont été tués, six autres blessés samedi au cours d'une attaque au fusil mitrailleur perpétrée par un soldat afghan dans l'est du pays. Les gardiens de la révolution iranienne ont dévoilé dimanche un missile balistique de courte portée pouvant, selon eux, être propulsé par un réacteur nouvelle génération.
Oui, au cœur de l'info. Sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons des églises évangéliques dites de réveil. Le réveil protestant francophone, parfois désigné par la simple expression « le réveil », est un mouvement de réveil religieux qui a bouleversé le protestantisme suisse, français et belge dans la première moitié du 19e siècle, particulièrement de 1820 à 1850. Le mouvement de réveil au sein du protestantisme apparaît en Grande-Bretagne à partir des années 1720-1730 et se développe en Écosse, en Angleterre et aux États-Unis. Des mouvements comparables ont lieu à peu près en même temps en Allemagne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. En 1908 est créée la Société belge des missions protestantes au Congo qui va mener s'investir au Congo, puis après 1918, également au Rwanda et au Burundi. Notre invité ce soir, c'est le professeur Jean-Pierre Karegeye. Il est spécialiste des religions, chercheur aussi. Professeur Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous enseignez au Dickinson College, c'est en Pennsylvanie, c'est ça. Voilà. On parle de ces églises évangéliques dites de réveil. Est-ce une réaction contre le rationalisme qui avait envahi les églises au cours du XVIIIe siècle ? Là, je parle de la naissance de ces églises.
Bon, réaction peut-être, mais c'est, je dirais, c'est comme vous l'avez dit, donc on a ces églises, disons, autour de 1820, et ce qui est exactement au 18e siècle, il y a ce siècle des Lumières, n'est-ce pas? Il y a un texte très intéressant de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» et pas une grande partie, mais il y a un certain nombre de paragraphes où il s'adresse à l'Église, parlant de à l'Église, aux pasteurs, aux à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre imposent leur volonté, ou non seulement leur volonté, ou plutôt une façon de parler de, disons, en leur lumière à vendre, si vous voulez. Et ce qui est important dans ce petit texte, c'est qu'est-ce que les lumières? Il demande aux gens il fait une bonne distinction entre l'âge mineur et l'âge majeur, et le majeur, il dit, c'est lui qui est capable d'utiliser sa raison. Donc, au XVIIIe siècle, aussi en lui passionnant en philosophie, en littérature, c'est ce qu'on appelle les siècles des lumières, les siècles des philosophes, où les gens sont appelés à faire usage de leur raison. C'est aussi un moment, dans plusieurs pays d'Europe, il y a des révolutions, et comme en France et ailleurs, mais aussi où il est demandé une séparation assez stricte entre l'Église et l'État. Mais c'est aussi toujours par rapport à l'Église, et donc ou même au niveau de la théologie aussi, dans le développement de la théologie, la question de la raison devient aussi importante. Donc nous sommes au XVIIIe siècle, donc les églises de réveil sont nées au XIXe siècle, et donc XIXe siècle correspond au siècle, au romantisme, si vous voulez. Il y avait plusieurs mouvements en Occident, disons en Europe surtout, et Angleterre, France, Allemagne. Donc il y avait plusieurs mouvements au niveau du 19e siècle, mais le plus important, c'est le romantisme. Et le romantisme, c'est donc une réaction claire au rationalisme du 18e siècle. Donc les gens disent, voilà, la raison ne peut pas tout expliquer. Donc maintenant, il y a un retour au sentiment, au lyrisme et personne, etc. Mais tout ce qui relève, je dirais, de sentiments, de d'émotions, etc. Donc, il y a une part importante au niveau du romantisme. Et donc, ces églises sont nées aussi dans ce cadre-là aussi. Donc, face au rejet de ce qui est raison religieuse, religieuse entre guillemets, donc face à l'obscurantisme des religions dans l'histoire et au rejet donc de ça au XVIIIe siècle, et donc les églises de réveil, comme dit réveil, donc le mot, ça signifie il y a quelque chose qui existait déjà. Et donc ça tombe bien pendant ce siècle où il y a un discours social par rapport au romantisme, et donc retour au sentiment, retour à l'esprit, si vous voulez. Donc c'est dans ce cadre, et je crois que réaction, comme vous l'avez dit, par rapport aux réactions au rationalisme du XVIIIe siècle, je dirais plutôt XIXe siècle comme un siècle un siècle, puis le discours social existant au XIXe siècle permet aussi l'épanouissement ou le retour aux églises, mais dans le sens de réveil. Et remarquez aussi que le mot réveil a plusieurs sens, quoi. C'est quand on parle des églises de réveil, donc ça a plusieurs sens. Oui, dans une certaine mesure, je dirais réaction au XVIIIe siècle, mais beaucoup plus renaître au XIXe siècle où il y a c'était un siècle propice pour le retour à ces mouvements religieux, si vous voulez.
Surtout que le siècle précédent a été caractérisé par des réformateurs fortement influencés par le piétisme. Professeur Jean-Pierre, le protestantisme a été marqué par l'esprit des Lumières, comme vous l'avez dit, mais au point d'éviter de trop aborder les points essentiels de la foi réformée, mais tout en gardant bien sûr la philosophie humaniste et quelques principes moraux.
Oui, bon, l'histoire du protestantisme aussi c'est intéressant, et mais remarquez qu'il est né bien avant le XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Si nous renvoyons à Luther dans ce moment-là, et oui, c'est loin, bien longtemps avant le XVIIIe siècle. Oui, mais le plus important, évidemment, avec le protestantisme, comme vous l'avez dit, c'est il y a le besoin de la réforme donc de l'Église, donc, mais aussi le protestantisme, c'est vrai, apporte beaucoup, donc par rapport à la raison bien sûr, apporte beaucoup de choses avant le réveil, je dirais, comme Église des réveils, par rapport au XVIIIe siècle, bien sûr, le protestantisme a aussi joué un rôle dans la mesure où pour la première fois, c'est-à-dire par rapport à l'Église catholique qui existait, je parle du christianisme ici, donc il y a l'insistance quand même à l'individu, donc l'individu, l'individualisme ou l'individu comme notion né au XVIe siècle. Donc au niveau donc du protestantisme, quand même on met un accent à l'individu, et alors que l'Église catholique dans le temps c'était plus dans le temps, mais maintenant peut-être, la communauté, donc la foi de la communauté. Et dans le protestantisme, et donc ça c'est tellement qui est important, c'est vrai avec le protestantisme, il y a aussi traduction par exemple et de la Bible dans plusieurs langues, etc. Donc, mais aussi cela participe à un changement, ce qu'on pourrait dire, à un tournant, oui, n'est-ce pas? Mais évidemment, vous avez là parlé de piétisme. Oui, le réveil piétiste, si on pourrait dire ainsi, ce n'est qu'une partie une forme, si vous voulez, une des facettes de ce qu'on appelle le réveil, n'est-ce pas?
Vous avez parlé justement de ce choix de vie marqué par une tendance individualiste, donc qu'est le christianisme, mais ça c'est surtout des revivalistes qui l'affirment notamment. Est-ce que le réveil qu'on voit en Afrique, est-ce qu'il répond à cette logique?
Donc en Afrique, on ne parle pas des églises réformées, on parle des églises indépendantes, on parle des églises de réveil. Et surtout, je crois qu'en Afrique, il y a deux endroits, quand je parle de l'Afrique francophone, le Congo, Kinshasa, le Cameroun, donc il y a la population quand même de ce qu'on appelle les églises de réveil. Mais il y a donc l'origine des églises de réveil, telles que les conditions dans lesquelles ces églises ont été créées, sont différentes de celles qu'on voit en Afrique, n'est-ce pas? Et donc, en Occident, évidemment, il y a, quand on parle des rêves, c'est, donc, tout à l'heure, on parlait de rationalisme, réaction, réactionnalisme. Là, donc, vous avez un réveil piétiste, par exemple. Vous avez aussi un retour à l'orthodoxie, n'est-ce pas? Au dogme, donc, le réveil orthodoxe aussi existe. Donc, mais aussi, il y a eu un réveil relativement libéral ou intellectualiste aussi, ça existait, c'est aussi une forme de réveil. Donc, quand on voit, et puis plus tard, ce serait aussi intéressant de voir, pas seulement comme mouvement protestant, mais aussi quelque chose qui existe aussi dans l'Église catholique au XXe siècle, surtout, fin XIXe siècle, début XXe siècle, ce qu'on appelait aussi le renouveau, n'est-ce pas, et peut-être ces groupes charismatiques aussi. Donc, au niveau de l'Afrique, je crois que les conditions sont différentes. Les conditions sont différentes. J'ai tendance à lier le piétisme ou ce qu'on appelle le réveil, les églises de réveil en Afrique, à tort ou à raison, à tort peut-être, et aux conditions et sociales que traverse le continent ou certains pays. Je crois que cela rend très facile et possible ce qu'on appelle la présence ou ce qu'on appelle les églises de réveil en Afrique.
Justement, le sociologue Léon Tsambou, professeur à l'Université catholique du Congo, qualifie ces églises dites de réveil de vendeurs d'espoir et d'illusions qui profitent de la naïveté, de la misère du peuple. Dans les églises dites de réveil, dit-il, les pasteurs sont quasiment tous dans le business évangélique, surfant sur la misère de la population pour s'enrichir sans vergogne. Et ces fidèles pauvres trouvent une communauté qui leur promet la solidarité en cas de malheur. C'est ce que vous semblez affirmer aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a un côté, je dirais, la recherche du merveilleux qui existe dans ces églises. Il y a aussi une réponse qu'on ne trouve pas, donc une réponse qu'on cherche. Donc, on est à la quête d'une solution face à une sorte d'impasse qu'on vit. Quand les gens sont face à une pauvreté aiguë, face à un problème, pas seulement la pauvreté, mais oui, on peut aussi appeler ça pauvreté, face à des problèmes sociaux, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème et qu'on pense qu'on n'a pas de solution, il devient très facile de se remettre à Dieu à travers le médiateur, donc le pasteur en général, donc, et qui promet tout. Donc il y a des endroits comme en Afrique du Sud, des pasteurs et qui promet aux gens, ou plutôt qui auraient ressuscité les morts
en échange des offrandes.
Oui, offrande, là, c'est aussi une autre chose. Donc, offrande, c'est vrai. Donc, où on pense que, donc, maintenant, pas le même de dîmes, donc, donnez le dixième de votre revenu. Donc, avant même de payer votre loyer, de payer les études de vos enfants, tout ce que vous gagnez comme en brut, donc, il faut que le 10% aille chez le pasteur. Et là, on va vous montrer des versets bibliques, etc. Et donc, c'est un phénomène terrible qui existe dans plusieurs, et qui appauvrit beaucoup de gens, n'est-ce pas? 10%. Et puis, il y a aussi un autre phénomène en plus de ça. Donc, maintenant, de plus en plus, ces pasteurs découvrent aussi la vocation de l'artiste musicien.
Justement, il y a une affaire de mœurs présumées impliquant un célèbre pasteur star de la musique religieuse en RDC. Quand il se produit sur scène, il s'appelle Moïse Mbille, il demande à ses fidèles entre 50 à 100 dollars pour célébrer avec lui la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas normal,
oui.
C'est bizarre.
Oui, c'est ça. Et donc, je suis ça, c'est vrai. Donc, ça, ce n'est qu'un aspect. Donc, vous avez donc les 10%, vous avez aussi donc les concerts et donc, etc. Et 20, donc ça aussi. Et en général, si vous remarquez la posture de ces musiciens, pas seulement Moïse Mbille et autres, ils remplissent tous les attributs de n'importe quel artiste, un musicien qu'on connaît ordinaire, c'est-à-dire Moïse Mbillé a le type d'instrument, il a le droit d'utiliser n'importe quel instrument, c'est-à-dire sa musique se vend autant que celle de Fally Ipupa ou autre, ou pourquoi pas même de Koffi Olomide. Donc c'est de ce côté-là, oui, n'est-ce pas, et ils ont même l'avantage, donc c'est ce qu'on appelle ces musiciens chrétiens, ils ont même l'avantage d'avoir un public qui est lié à eux, n'est-ce pas, et c'est différent de notre artiste qui doit conquérir son public, mais eux c'est comme vraiment ses fidèles, c'est comme s'il a un contrat avec eux, n'est-ce pas.
Nous avons quelques commentaires des auditeurs. Il y a Eratus qui dit: les gens contredisent déjà la parole divine, elle ne peut jamais être une marchandise. Alphonse Mbouaki, les fidèles ont leur part de responsabilité aussi, c'est de vérifier l'authenticité ou la véracité des messages qu'ils reçoivent pour qu'ils puissent faire un discernement. Et Mathieu Capekele qui dit, nous vous informons qu'au-delà de ce qui précède, d'autres sont devenus de lieux de rencontres, d'activités politiques, comme aux années 90. Et c'est un grand parti politique dont les membres font partie d'un grand tribu de notre pays qui s'exerce à ces pratiques regrettables. Et là, il parle justement de cette église évangélique à Kinshasa. Augustin Gauthier, il dit: ces églises sont des boutiques couvertes par des noms de Dieu. La plupart d'entre elles n'ont même pas à parler de Dieu et sont charnelles. Seuls ceux qui ont des moyens trouvent aux yeux des pasteurs ce qu'ils appellent la bénédiction fétichiste. Si j'étais ministre de l'Intérieur, j'allais déjà fermer ces églises. Faustin Bouya, moi je qualifie ces pasteurs de gens de mauvaise foi quand ils utilisent toutes les techniques possibles pour aveugler les gens. Ils font actuellement du commerce pour amasser de l'argent. Ils vendent d'huile d'onction, de l'eau bénite, et surtout les gens sont attirés par leurs prophéties. En tant que Congolais, je suis tellement choqué à cause de ce qui se passe dans mon pays. C'est catastrophique. Il y a aussi Victoire Kimal qui dit: le gouvernement devrait fermer ses églises. Alphonse Mbouaki dit encore une fois: cela ne veut pas dire que les vrais pasteurs n'existaient pas. En quelques mots, professeur Jean-Pierre, en commentaire, il y en a qui parlent, qui remettent en cause le rôle de l'État.
Oui, trois choses peut-être. Je retiens, c'est vrai, il y a certainement abus. Et là, donc, l'État a le droit et le devoir surtout et de protéger la population abusée, n'est-ce pas? Donc, ça, il y a deuxièmement, c'est que pourquoi est-ce que cela devient possible? C'est que les pasteurs ou ces hommes, ces religieux, soi-disant religieux, prétendent agir au nom de Dieu. Donc, ils parlent de ils estiment être envoyés par Dieu. Et donc là, il y a aussi c'est fait que ce qu'ils disent a une certaine autorité auprès des gens, parce que prétendant que ça vient de Dieu. Donc ça signifie même, et c'est ce qui est terrible, donc tout ce qu'ils font ou ils disent n'a pas de censure. Et ça dit même au niveau moral tout à l'heure, donc ça dit un pasteur peut tout se permettre, que ce soit au niveau de finances, que ce soit sur le plan moral, n'est-ce pas, et même ce qui est inacceptable, répugnant, mais il pourrait être excusé ou on accepterait parce que les gens pensent que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Et troisièmement, je crois que cela est possible dans des endroits où il y a un État faible. Faible, c'est-à-dire, ça n'appelle pas la dictature, mais un État qui n'est pas en mesure de répondre aux besoins de la population, gouvernement dirais-je plutôt. Donc, cela laisse aussi Donc, à ce moment, les gens, la population et l'abri où devient extrêmement vulnérable face à ces pasteurs ou soi-disant hommes de Dieu.
Il y a d'autres auditeurs, Kevin Kanyinda, qui dit « Ce phénomène n'est pas étrange, beaucoup font cela et la plupart des fidèles se laissent manipuler, surtout quand on est dans la dépression, quand on est dans le désespoir ou dans une situation difficile et cela a des conséquences. » Jacques Befonga dit « Il faut souligner que ces églises jouent aussi un rôle important de moralisation des fidèles. » Diallo Tcherno, ce phénomène a été dénoncé plusieurs fois et depuis plusieurs années, mais hélas, ça continue parce que les fidèles croient trop à ces gens qui font du business religieux. Alphonse Mbouaki dit encore une fois, pour devenir un pasteur, il faut recevoir un appel de Dieu pour exercer ce ministère conformément aux prescrits bibliques. Voilà tous ces commentaires. Est-ce que ça suffit pour recevoir cet appel? On ne peut pas se cacher derrière un appel hypothétique pour justement tromper les fidèles?
Donc, parler d'appel, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'impact de ces mouvements ou de ces pasteurs, leur impact par rapport à la population, surtout ce qu'il y a comme abus. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention et ce qui se passe de plus en plus et dans plusieurs pays en Afrique. Donc, comme je l'ai dit, il faut un autre réveil, n'est-ce pas? Mais que ça ne soit pas une église de rêver, mais rêver peut-être de notre intelligence, mais aussi rêver au niveau des gouvernements, rêver sur le plan économique, n'est-ce pas? Cela pourrait être des moyens peut-être de faire face à ce qui est en train de se vivre actuellement en Afrique. Mais aussi, je crois, il faut aussi repenser à notre discours moral. Parce que tout à l'heure, vous avez cité le cas d'un pasteur, donc à Kinshasa, et accusé de
viol.
Si vous voulez, de viol. Et il y a quelques semaines, c'était un autre accusé d'avoir violenté sa femme, etc. Vrai ou faux. Mais ça, c'est une autre question. Donc, là, je dis, voilà, bon, il ne faut pas que le religieux soit en deçà du moral. Et deuxièmement, et peut-être...
Pour conclure, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il faudrait voir aussi s'il n'y a pas un problème culturel. Même si ces églises ne sont pas nées en Afrique, très probablement, il y a aussi un problème culturel. C'est-à-dire, vous avez une population ou des gens qui se disent, même une communauté chrétienne, peu importe, qui trouvent normal qu'un pasteur, qui excuse un pasteur qui ferait ça, mais n'excuserait pas une autre personne. Par exemple, si c'est un artiste qu'on dit, une musique profane, ferait ça, les gens l'attaqueraient, disent, ça, c'est pas sérieux. Mais pourquoi on tolérerait ça, c'est un pasteur. Donc je crois qu'il y a aussi un phénomène, au-delà du religieux, il y a aussi un phénomène culturel, cette tolérance peut-être, bon, cette tolérance aussi vis-à-vis d'une injustice envers la femme aussi. Donc ça aussi, c'est un élément peut-être à souligner. Le culturel, je crois, est aussi à revisiter.
On va terminer avec ce commentaire de Victoire. Un grand problème qui se propage partout en RDC, ces églises organisent de conventions, de croisades. Leur vision repose sur les offrandes. Certaines églises finissent de se séparer, de se diviser. Alphonse Mbouaki, on voit des pasteurs qui roulent carrosse au dos des fidèles pendant qu'ils parlent de tout le temps de prospérité. Merci à professeur Jean-Pierre Caléguier pour votre contribution dans ce dialogue des religions. On parlait des méfaits de ces églises évangéliques dites de réveil. Et là, le rôle de l'État est important pour réguler. Merci pour votre disponibilité, votre contribution.
Merci.
Eric Manilakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.